place publique.
Annie Ramadan n'est pas le bienvenu en France sous état d'urgence. Le directeur du centre islamique de Genève a dû annuler une conférence prévue demain à Roubaix. L'islamologue controversé Annie Ramadan, qui vous l'entendrez, intervient désormais régulièrement à Neuchâtel, invitée par une association culturelle musulmane. Nacha Gagnebin a grandi à Orvin dans le Jura bernois et il travaille depuis plusieurs années comme collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale à Paris. C'est dire qu'il est aux premières loges du Penelope Gate. Il nous dira ce qu'il perçoit et pense de cette affaire qui secoue le candidat de droite à la présidentielle française, François Fillon, et son entourage. Et à Paris toujours, il y avait lieu hier les premières rencontres francophones de la vidéo mobile. Plusieurs médias romans étaient présents, dont vos radios. Car plus que jamais, le téléphone portable est devenu un outil incontournable pour enrichir l'actualité en images sur vos écrans. Alors, quelles possibilités offrent ces appareils? Vous entendrez l'avis d'un professionnel en dernière partie d'émission. Et on n'oublie pas de vous faire sourire dans Place Publique avec la participation tout à l'heure de notre chroniqueuse Céline Favre.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. On reparle d'Annie Ramadan, le directeur du Centre islamique de Genève et intellectuel controversé. Il s'était notamment illustré pour ses propos légitimant la lapidation des femmes au nom de la loi divine islamique, ce qui lui a valu d'être licencié de son poste d'enseignant par l'État de Genève. C'est dire que sa conception de l'islam passe pas toujours bien. Dernier exemple en date, sa venue prévue demain dans une mosquée de Roubaix en France qui a été annulée après de fortes pressions politiques. Le scénario se répète car en septembre déjà, la ville de Nîmes avait pris une décision similaire pour les mêmes raisons. Or, Annie Ramadan reste le bienvenu à Neuchâtel, par exemple, régulièrement invité par l'association culturelle des musulmans de Neuchâtel. Le porte-parole de cette association est avec nous pour en parler. Jamel Cherif, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes précisément, on va le dire, responsable des relations extérieures auprès des autorités pour l'association donc culturelle des musulmans de Neuchâtel. On l'a dit, Annie Ramadan suscite la controverse. Plusieurs voix en France, notamment politiques, l'accusent de prôner la haine et la division nationale. Alors que vous inspire cette levée de bouclier?
Écoutez, c'est une levée de bouclier incompréhensible, en fait, parce que là, monsieur Annie Ramadan, c'est quelqu'un qu'on invite tous les 3 mois, donc assez régulièrement. On sollicite plutôt ses compétences en langue française et en théologie que en fait ses opinions personnelles. Les opinions personnelles restent une affaire personnelle, c'est une affaire de qui relève de la liberté de la personne de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Ce que je comprends pas, effectivement, c'est que on prône la liberté d'expression en France, mais en même temps, on la censure quand il s'agit d'une interprétation théologique ou bien d'exprimer ses opinions.
Alors, je pense que... Oui, continuez, excusez-moi, je vous interromps.
Je pense juste que la justice en Suisse a dit son mot concernant M. Ramadan et que, finalement, donc le verdict était de l'indemniser, finalement, même s'il était, on voyait de son poste de travail. Voilà, donc je vous écoute si vous posez une question.
Alors, revenons sur ce qui se passe en France avant de revenir sur vos invitations à Neuchâtel. L'attaque de ce matin au Louvre à Paris le montre, hein, les dérives fondamentalistes terroristes au nom de l'islam sont toujours d'actualité. Est-ce que vous ne comprenez pas, finalement, qu'on redouble de vigilance dans ce pays s'il y a un doute sur la nature de certains propos qui pourraient être tenus?
Justement, donc c'est les faits, mais il faut bien penser à la cause d'abord. Hein. Donc, si on explique déjà les raisons pour lesquelles il y a de tels actes à telle fréquence en France, c'est plutôt s'explique par cette politique qui est un peu exclusive et qui pratique un petit peu la politique de deux poids de mesure. Et finalement, donc, on voit très bien les incohérences quand on parle de certains musulmans ou qui appartiennent à une communauté telle que la communauté musulmane. Donc là, on pratique la censure. Et quand il s'agit d'une attaque ou stigmatisation contre cette communauté même, donc on l'autorise au nom de la liberté d'expression. Les musulmans sont aussi indignés par cette incohérence, par ce deux poids de mesure. Et ce qui suscite finalement des réactions pareilles. Donc, qui vient le premier, la poule ou l'œuf? Donc, c'est ça la question toujours. C'est peut-être ce genre de discours, cette stratégie ou politique médiatique qui suscite ce genre de réaction incontrôlable, incompréhensible et irrationnel.
Vous l'avez précisé.
Aussi déplorant de notre côté.
On vous a bien compris. Vous nous avez dit tout à l'heure, Annie Ramadan vient tous les 2-3 mois à Neuchâtel dans le cadre de votre association. Il intervient pour des conférences. Il est venu le 4 novembre et le 9 décembre. Quelle garantie avez-vous ou prenez-vous pour que ces propos ne soient pas contraires aux valeurs défendues en Suisse ?
Écoutez, tout d'abord, donc la démarche est tout à fait claire. Donc, on lui propose quelques sujets. Donc, lui, il procède de manière assez académique. Donc, il prend les sujets, il prépare des lectures en rapport, et puis finalement, il encadre un petit séminaire des jeunes. Là, où il discute avec eux certains passages, il les fait travailler sur certains concepts qu'il thématise et puis par la suite qu'il explique. Donc, avec la présence du responsable de cette activité, M. Ferjani, qui est à la base juriste, donc et qui respecte très bien la loi, et voilà, il sait très bien comment gérer ce genre de sujet, comment limiter en fait l'intervention par rapport à ce que l'association sollicite de ses compétences.
Ce sont donc des interventions d'ordre plutôt théologique à la manière d'un catéchisme, et vous le cadrez pour qu'il n'y ait pas d'opinion qui soit d'opinion, on va dire sociétale, qui soit tenue.
Exactement. Donc c'est purement théologique, c'est en fait l'exploration de certains concepts. Les faire, enseigner aux jeunes, essentiellement, là, qui n'ont pas accès forcément à ces idées complexes. Et puis, on limite toujours à cet aspect académique. Ce qui est opinion personnelle ou ce qui a trait à ses positions personnelles, donc, il est tout à fait à la marge pour nous. Et puis, ça ne nous intéresse pas.
Donc, vous ne les partagez pas, ces opinions ?
Écoutez, les musulmans, donc, si on regarde la civilisation et son histoire, en théologie même, donc il y a toute une panoplie d'interprétations qui va, disons, à des degrés différents, à une échelle, une ventaille incroyable. Donc chacun pense ce qu'il veut, mais ce qui lui semble bon à penser, mais pour nous, il y a des interprétations qui sont communes et générales et admises. Et celui qui veut interpréter autrement, donc c'est son affaire personnelle. Et puis, il reste toujours par rapport à la mesure qu'on fait, par rapport à l'opinion commune, il reste à la marge.
Jamel Cherif, un mot pour finir sur le contexte actuel. Avec cet attentat à Paris aujourd'hui, mais aussi l'attentat qui touchait cette fois-ci des musulmans dans une mosquée au Québec, ou encore ce décret de Donald Trump qui frappe des musulmans de certaines nationalités, comment vous analysez cette situation complexe et extrêmement tendue ? Est-ce qu'elle vous touche même jusqu'à Neuchâtel ?
Écoutez, pour nous, à Neuchâtel, je trouve dommage qu'on s'aligne avec une politique un peu différente, parce que les valeurs en Suisse sont tout à fait différentes. Donc, on favorise en Suisse le vivre ensemble, on favorise certaines valeurs. Donc, la Suisse est connue par sa neutralité, par sa laïcité inclusive, par les lois bien respectées, disons, qui priment surtout ce qui est sociétal en général. Pour moi, donc, ça n'a pas vraiment, l'influence qu'on cherche peut-être à instrumentaliser. J'ai perdu le mot. Voilà. Donc, en Suisse, je trouve qu'il y a quand même un sens de pragmatisme qui est très très présent, et puis qui sait très bien comment défendre les valeurs sans entrer dans une logique de conflit, comme est le cas aux États-Unis aujourd'hui, ou bien en France. Et on en voit déjà les conséquences au Québec et en France. Donc les deux parties sont lésées au même titre, malheureusement.
Jamel Cherif, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Place Publique pour vos explications. On le rappelle, vous êtes responsable des relations extérieures auprès des autorités pour l'Association culturelle des musulmans de Neuchâtel, qui accueille donc régulièrement, tous les 2-3 mois, Annie Ramadan, donc qui viendra autour du mois de février-mars. On vous remercie, on vous souhaite une bonne suite de soirée.
Merci beaucoup à vous de même. Au revoir.
Place Publique.
Et nous sommes de retour dans Place Publique avec l'affaire Pénélope Fillon qui secoue la France. C'est peut-être même la présidentielle qui se joue ces jours-ci. témoin privilégié de ce séisme politique, un trentenaire originaire du Jura bernois. Nacha Gagnebin a grandi à Orvin et travaille aujourd'hui comme conseiller politique à l'Assemblée nationale à Paris. Travailleur de l'ombre, il est affilié au groupe radical républicain démocrate et progressiste, soit au centre-gauche de l'échiquier politique. Alors nous l'avons rencontré à Paris, il nous dit comment il vit cet épisode plutôt relevé de la vie politique française.
Mardi matin, on a une perquisition des policiers qui sont venus à l'Assemblée. Ce qui me semble être, je ne sais pas, hein, de mémoire, je pense, la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, parce qu'en général, la police ne rentre pas dans les murs de l'Assemblée et il faut une autorisation de la part du président de l'Assemblée pour permettre une perquisition de l'État au sein des bâtiments de l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu tendu, il y a une effervescence. On a les chaînes d'infos qui sont branchées dans chaque bureau. On suit un peu sur les réseaux sociaux ce qui est en train de se passer. Les petites déclarations qui proviennent du Sénat, de la salle des quatre colonnes, qui est la salle où la presse se retrouve et puis peut interviewer les députés. Et puis, effectivement, en plus, on est dans une situation où on a des élections présidentielles qui arrivent très vite. On va bientôt suspendre le Parlement à la fin du mois de février. Il n'y aura plus de travail parlementaire. Mais en même temps, on sent qu'il y a des affaires, il y a des primaires qui viennent se terminer. Et puis, les candidats affûtent un peu leurs armes.
Vous parlez de cette perquisition. Qu'est-ce que vous en avez perçu de vos yeux vus ?
Alors nous, on ne les a pas entendus parce que vous savez, l'Assemblée nationale, c'est un endroit où les choses sont très confinées. Donc on peut être, et c'est très grand. Donc on entend les bruits de couloir, on se dit « Ah, la police est dans les lieux ». Mais effectivement, on n'a pas vraiment vu les policiers. En revanche, on a vu une sacrée... bande de journalistes qui étaient là, qui voulaient l'information, et on a vu qu'il y avait une sorte d'agitation beaucoup plus forte que les autres jours.
Ne pas être vu à l'Assemblée alors qu'on est assistant parlementaire, ne pas disposer d'un badge d'accès, ne pas disposer non plus d'une adresse email, est-ce que dans cette affaire de Pénélope Fillon, il y a lieu de se poser des questions ?
Alors écoutez, pour les adresses email, j'ai fait un petit sondage moi-même à mon étage, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas sa propre adresse email, qui répond directement avec l'adresse du député. Sinon tous les autres collaborateurs de députés ont bien une adresse email. Quand vous avez un député qui vous demande « envoie-moi tel et tel, oh, transmets-moi le mail de tel et tel », si tout le monde partage la même adresse email, il n'y a pas besoin d'avoir un assistant parlementaire, puisque l'assistant parlementaire, c'est aussi son rôle de rediriger les informations qu'il juge utiles ou qui semblent pertinentes pour le travail du député. Quant au badge, c'est très compliqué, d'autant plus qu'actuellement, on est sous état d'urgence. Donc avant, on pouvait un peu rentrer dans un parlement comme on voulait. Pas comme on voulait, il y avait des règles de sécurité, mais de toute façon, le badge... est la seule opportunité de pouvoir rentrer dans des accès qui ne sont pas forcément vérifiés par une sécurité, mais qui sont automatisés. Donc, sans badge, pas d'entrée à l'Assemblée nationale, extrêmement difficile de faire un réel travail de collaborateur parlementaire.
Ça veut dire, Nacha Gagnebin, que les collaborateurs parlementaires, les assistants parlementaires, sont tous à peu près d'accord pour dire « Tiens, ça sent le roussi pour cette affaire de Pénélope Fillon ».
Non seulement on est tous d'accord pour dire que ça sent le roussi, mais en plus on se rend compte qu'il y a des sacrées inégalités salariales dans qu'est-ce qui est donné à qui. Évidemment, il y a un crédit collaborateur que chaque député reçoit, qui est libre, il est libre donc de le répartir parmi, en général, c'est pas une règle générale, mais souvent il y a trois collaborateurs. On trouve une secrétaire en circonscription, un collaborateur en circonscription et un collaborateur qui fait le suivi à Paris. Donc, vous imaginez bien que l'enveloppe, elle est quand même là pour payer trois personnes. Quand on se rend compte qu'on a une énorme enveloppe, pour, au final, d'après ce que les médias disent, pas grand-chose de notes dans une revue signée, ça se trouve, on ne sait pas trop d'où ça vient. On se pose des questions. En plus, il y a un vrai sentiment de gêne et surtout d'inégalité salariale et de traitement. Le travail est très différent suivant avec la personne avec qui on travaille. Parce qu'on a des députés qui vont vouloir nous demander de faire seulement une chose, d'autres députés qui vont nous demander et nous charger de faire beaucoup d'autres choses. Et donc là, on se rend compte que pour éventuellement peu de choses, elle est payée beaucoup. Et là, il y a deux jours, on se rendait compte qu'elle n'avait même pas, ne se souvenait plus avoir signé ses contrats.
Est-ce que, selon vous, cette affaire est en train de mettre au jour quelque chose d'assez répandu ou c'est un cas isolé ?
Alors moi, je connais, j'ai eu des collègues qui ont été filles et fils de députés. En revanche, ils sont là tous les jours, du lundi au vendredi. Ils travaillent, ils font un suivi, ils nous appellent, ils demandent des notes, on leur répond, on va manger ensemble à midi. Ils ont un badge, évidemment, parce qu'il faut sortir du bâtiment pour aller manger dans l'autre bâtiment. Et on ne peut rentrer dans l'autre bâtiment qu'avec son badge. Donc, à moins que vous mangez tout le temps dans votre bureau et que vous ne voyez personne, déjà, il faut quand même avoir un badge pour rentrer dans votre bureau.
Et rassurez-nous, votre emploi de collaborateur parlementaire n'est pas fictif, Nacha Gagnoba.
C'est-à-dire que c'est plutôt mon sommeil qui peut vous assurer que mon emploi n'est pas fictif. J'ai un contrat de travail qui est à peu près à 37 heures et quelques heures, enfin quelques minutes. Mais je suis plutôt sur une charge de travail un peu plus élevée que ce qu'on peut trouver en Suisse. Pour la France, c'est énormément. Et effectivement, j'ai pas vraiment d'horaire. C'est-à-dire qu'il faut que je sois là pour assurer le suivi et les demandes des députés. Mais j'ai déjà eu des journées de travail qui commencent à 8h du matin et qui se sont terminées à 5h du matin le matin suivant.
Vous avez grandi à Orvin dans le Jura bernois. Vous êtes lancé dans un parcours de réalisateur. Vous voilà maintenant collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale. Comment vous vous êtes retrouvé à faire ça?
Écoutez, c'est un peu les aléas de la vie, c'est-à-dire qu'on fait des études à Lausanne, on part à Paris pour poursuivre en réalisation cinématographique. On arrive à en vivre pendant 5 ans, j'ai réussi à en vivre pendant 5 ans, et puis il y a eu la crise de 2008, qui a eu des répercussions énormes sur le monde du spectacle et les arts. Et évidemment, quand vous avez une crise économique, les premières choses qu'on coupe en général, c'est le social et la culture. Donc ça a été très compliqué à un moment donné de réussir à financer des budgets de production pour réaliser mes films documentaires. Et puis je me suis retrouvé à un moment donné où j'ai perdu mon intermittence du spectacle. Je n'avais plus de chômage, je n'avais plus rien. Il fallait trouver quelque chose. Et comme j'ai toujours été impliqué en politique et que j'ai toujours été membre de ce parti, le jour même où je suis arrivé en France, je m'étais déjà renseigné sur ce parti avant d'arriver en France. Des connaissances, on m'a présenté ma candidature et j'ai présenté ma candidature à mon employeur qui a pris un petit peu de temps pour m'employer parce qu'il y avait d'autres candidats sur la ligne de départ et qu'il fallait trouver la personnalité qui pouvait répondre le mieux aux attentes du groupe.
On a l'impression, maintenant qu'on vous voit en cravate, assistant parlementaire, travaillant jusqu'au bout de la nuit certains jours de la semaine, que le Jura bernois semble très loin. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous installer dans cette fonction, pourquoi pas poursuivre votre carrière politique? Est-ce que vous songez un jour à revenir ou à aspirer à un peu plus de calme en Suisse?
Je pense que la politique, on l'a dans le sang ou on ne l'a pas. Et donc, quand on l'a dans le sang, effectivement, quand on est... C'est une question qui est... Parlons clairement, quand on travaille avec des députés, on se rend bien compte qu'il y a une question de pouvoir qui est autour de là. Et le pouvoir, c'est pas négligeable, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a un prestige dans la fonction, il y a aussi des intérêts particuliers de pouvoir défendre certaines causes.
Même pour un collaborateur qui assiste à tout ça de près?
Écoutez, c'est très compliqué pour le collaborateur, parce qu'en général, le collaborateur, quand tout va bien, c'est grâce au député, et quand tout va mal, c'est à cause de lui. Je caricature, mais c'est parfois une charge ingrate, parce qu'on est dans l'ombre, on fait des choses dans l'ombre, on fait beaucoup de choses, pour lesquelles les députés nous sont d'ailleurs reconnaissants. Hein. Je n'ai pas honte de le dire, moi j'ai régulièrement mes députés qui me disent « merci beaucoup pour ton travail, c'est très agréable, tu as bien traduit mon idée, mes positions, etc. » Mais c'est vrai que ça peut être tentant d'être dans un hémicycle parce que là, j'écris des discours, j'écris des amendements, j'écris des propositions de loi. Je fais d'une certaine manière, pas le travail d'un député, mais je fais certaines charges qui pourraient revenir à un député ou finalement à un collaborateur de député. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant et qui donne envie.
Pour répondre à ma question, qu'est-ce qui vous reste comme attache avec le Jura bernois? Elles sont suffisantes, ces attaches, pour y revenir? Ou là, vous avez vraiment trouvé votre voie, c'est parti pour rester?
C'est vrai que le Jura bernois, c'est plutôt un endroit où j'y vais pour me ressourcer, être en famille, voir les amis, et puis passer à autre chose, faire une coupure. Mais revenir en Suisse, pourquoi pas? Moi, je trouve que la politique en Suisse est bien plus intéressante que la politique en France.
Nacha Gagnebin, donc, qui a grandi à Orvin et qui nous répondait, c'était mercredi soir à Paris. Et pour en rire, j'espère, on a le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse Céline Favre. Bonsoir Céline.
Bonsoir Gabriel.
Alors dans cette affaire, qu'est-ce qui retient votre attention?
Alors écoutez, ce qui retient mon attention, c'est l'envie en fait de vous raconter une histoire.
Ah, j'aime les histoires.
Alors, il était une fois un petit garçon que l'on nommait tendrement FF.
Qu'est-ce que tu veux que je dise aux gosses en face de moi qui font plus de thunes en un jour que moi dans le mois?
FF, non pas comme François Fillon cette fois, mais comme Funky Family.
Ah bah oui, dans la famille Fillon, c'est funky et tout le monde danse, la femme, les enfants, c'est la fête. Donc, le petit garçon avait du caractère. Il se rêvait roi de son village. Mais comme tous les petits garçons, le petit FF, inspiré sans aucun doute par son copain, le petit Nicolas, faisait des bêtises. Ses parents possédaient une grande demeure dans laquelle étaient religieusement entreposées toutes les confitures du village. Le petit FF ne résista pas et commença dès son plus jeune âge à prélever chaque nuit un peu de cette fameuse confiture. Ce petit chapardage passa inaperçu durant des années. Ni sa famille, ni les villageois ne s'en aperçurent. Quand ? Soudain ? Eh ben oui, mon petit François, c'est un conte, il allait arriver ce quand, ce soudain, ce tout à coup de malheur qui te vaut si cher en ce moment. Donc quand, soudain, un voisin, celui de gauche ou celui de droite, on ne le sut jamais, le surprit une nuit la main dans un dépôt de confiture et le dénonça. Les villageois consternés le sermonnèrent. « Mais enfin, Fillon, que fais-tu la main dans le pot de confiture ?» Le petit François nia en bloc les accusations, la main encore dans le pot de confiture, et se défendit en disant ceci.
« Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences. »
Mais, chut bon, excusez-moi, j'interromps le compte, là, il faut qu'on cause, François et moi. Mais bon Dieu, quand tu te fais choper la main dans le pot de confiture, d'abord, tu ne nies pas l'évidence, et surtout, tu racontes pas que tu as aussi volé des biscuits.
Nous n'avons qu'un seul compte, au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe.
Mais, qu'est-ce que je viens de te dire? Et toi, tu recommences, direct. On n'a même pas le temps de dire ouf. T'as pourtant des copains qui sont passés par là, tu sais ce qu'il faut pas faire. Bon, à chaque compte, sa morale, la mienne sera de circonstance, donc politique et ma foi pas très éthique. Tu veux être un bandit? Très bien. Mais ne te fais pas choper. Ou alors, viens en Suisse. Viens. Ici, pas de canard enchaîné ou autre Mediapart qui te rappelleront que, quand même, t'as merdé, mon petit François. Le dernier journal qui aurait pu t'embêter à la récré, à l'hebdo, on l'a viré. Allez, viens, ici c'est cool.
Céline Favre, merci beaucoup pour votre interprétation du Penelope Gate.
Place publique.
Et depuis l'été 2015, les journalistes de la télévision locale genevoise L'Aimant Bleu ont fait le pari de ne travailler plus qu'avec le smartphone. Un pari osé à l'époque, mais qui aujourd'hui devient réalité dans beaucoup de médias. Avec un simple téléphone, il est désormais possible de faire des photos, des vidéos, du montage, des sons, le tout avec de la qualité. C'est important. Suffisamment de qualité pour rivaliser avec les bonnes vieilles caméras. Cette nouvelle tendance a un nom, on l'appelle le journalisme mobile ou le Mojo, mobile journaliste. Un salon dédié à cette question avait lieu hier à Paris. Il rassemblait plusieurs médias francophones, dont vos radios RTN, RFJ et RJB, qui utilisent sur le web des smartphones. Le journalisme mobile devient-il à la portée de tous pour autant? Est-ce que tous les détenteurs de téléphones sont journalistes? Alors on vous propose d'entendre sur cette question Denis Vanier, journaliste et chef de projet pour Medialab, un pôle de compétences dédié aux technologies de l'information numérique dans l'ouest de la France.
On parle de journalisme mobile. Aujourd'hui, à partir du moment où on utilise un smartphone pour tourner, pour faire des images, pour faire du son, et surtout pour le diffuser. C'est-à-dire qu'on profite à la fois de la capacité, de la légèreté de l'appareil, mais aussi de sa connectivité, du fait qu'il soit connecté à Internet et qu'on puisse interagir directement avec le public depuis son smartphone, depuis le terrain. C'est en ça qu'on devient beaucoup plus mobile, beaucoup plus agile.
Le public lui-même interagit avec lui-même, si j'ose dire, sur des réseaux sociaux comme Periscope, comme Facebook Live. Ça en fait pour autant des journalistes mobiles?
En fait, on devient journaliste à partir du moment où on essaie de prendre du recul sur ce qu'on voit, où on arrive à décrire ce qui n'est pas visible dans l'image. Voilà, c'est à partir du moment où on apporte du contexte à ce qui est directement visible et on essaye de pas d'être objectif, parce que l'objectivité n'existe pas en journalisme, mais au moins un peu d'honnêteté, neutralité, oui.
Quel genre de sujet on couvre avec un téléphone portable? Est-ce qu'on fait exactement la même chose qu'avant, sauf que c'est plus simple? Ou est-ce que ça nous permet d'atteindre d'autres cadres, d'autres contextes?
Alors ça permet surtout de se déployer de façon beaucoup plus rapide quand on est dans la rue sur un événement qui vient de se produire. Parce que c'est beaucoup plus difficile évidemment de mobiliser un cas régie en moins de 5 minutes. Donc on est surtout sur des sujets qui sont imprévus. On est sur des sujets où il y a beaucoup de monde et il est parfois nécessaire d'être discret. Donc c'est ce qu'apporte aussi le téléphone portable, c'est sa discrétion, ce qui permet de travailler de manière beaucoup plus confortable et peut-être d'avoir des contenus qu'on n'aurait jamais avec, avec un micro LEM, un gros enregistreur, un Agra, avec une caméra Betacam. Le fait d'être très mobile apporte du contenu différent, mais je dirais que ça peut être à peu près sur tous les contenus, pas forcément les contenus comme du sport ou de la culture, où là tout est très identifié et en fait autant en prendre le matériel habituel. Voilà.
Ça peut amener un avantage, ça permet aux journalistes d'être plus discrets dans certains contextes tendus, comme des manifestations, ça peut servir. Par contre, ça peut aussi désavantager le journaliste qui perd quelque part en légitimité, puisqu'il brandit un téléphone portable, il n'y a plus de signes distinctifs, les moyens sont très légers.
Ça a un avantage de ne plus être identifié comme journaliste, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a une défiance énorme vis-à-vis des médias en général, et donc des journalistes qui sont sur le terrain. Donc ça apporte cet avantage déjà de ne pas être agressé de prime abord, déjà de pouvoir discuter avec des gens et puis de leur expliquer oui, qu'on est journaliste mais qu'on vient vers eux de manière beaucoup plus simple qu'on ne le faisait auparavant. Et oui, on est de plus en plus, notamment dans les manifestations, sur des contextes très tendus, voire très dangereux. Moi, ça fait à peine 2 ans, enfin ça fait une quinzaine d'années que je fais ce métier. Depuis 2 ans, c'est devenu dangereux, mais vraiment dangereux de couvrir des manifestations. On peut revenir blessé, alors qu'en France, il est très rare, en tant que journaliste, de se faire blesser sur une manifestation. Aujourd'hui, c'est compliqué, donc c'est vraiment une question de sécurité. Au moins d'être discret au premier abord, pour ensuite aborder les gens de manière un peu plus apaisée. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre question qui se pose, à savoir la question de la sphère privée, puisqu'il immortalise avec un téléphone, sans que les gens s'en aperçoivent, des scènes, et les gens n'ont peut-être pas envie d'être filmés, d'apparaître publiquement.
Et c'est là qu'intervient justement tout le background déontologique du journaliste. Parce qu'effectivement, on peut à peu près tout montrer avec un téléphone portable. L'honnêteté veut qu'on s'annonce quand on est journaliste. C'est-à-dire qu'on n'avance pas masqué. Ça fait même partie des règles déontologiques de la charte de journaliste. Je dirais que oui, c'est une question d'honnêteté, mais ça se mesure aussi en fonction de la vulnérabilité des gens face auxquels on est. Quand je suis en face de gens qui ne maîtrisent pas la sphère médiatique, je suis très très prudent. Quand je suis face à des hommes politiques, face à des acteurs économiques qui ont une grande habitude des médias, je prends moins de pincettes, oui, parce qu'effectivement, ils ont plus d'armes pour se défendre que pourraient l'avoir des gens dans la rue qu'on va aborder à l'improviste.
On voit apparaître des chaînes de télévision maintenant depuis 2-3 ans qui revendiquent un travail uniquement ou presque avec des téléphones mobiles. Qu'est-ce qui permet cette émergence? Est-ce que c'est simplement parce que c'est moins cher et plus pratique?
Alors déjà, c'est techniquement faisable depuis pas si longtemps que ça. Hein. On peut avoir des images de bonne qualité et envoyer de l'image de qualité correcte depuis 2-3 ans. Hein. Avant, ça pixelisait, c'était pas acceptable. On n'avait pas le minimum acceptable par des chaînes de télé. Aujourd'hui, ça le devient. Mais il y a aussi un autre contexte, hein, qui est le contexte économique difficile. Alors là, je pense plus aux télévisions locales, mais qui sont toutes effectivement à la recherche de diminution des coûts. Même si le coût sur le long terme d'un passage au tout mobile est pas si avantageux, hein, par rapport aux équipements broadcast traditionnels.
On voit bien intérêt pour les journalistes de faire du journalisme mobile. Quel avantage pour le public? Qu'est-ce qui va changer pour lui? Qu'est-ce qui va changer à l'image? Qu'est-ce que ça va permettre pour le public?
Moi, je suis assez dubitatif sur la plus-value pour le public que les journalistes utilisent des smartphones. A priori, je ne sais pas ce que ça pourrait apporter de nouveau dans l'éditorial, à part une plus grande réactivité. Je ne suis pas sûr, d'un autre côté, que ce soit ce qu'attendent aujourd'hui les gens, une meilleure réactivité journaliste. Je pense que c'est plutôt davantage de recul, davantage de mise en contexte. Donc non, le côté immédiat, hyper réactivité n'apporte pas beaucoup plus, à mon sens, hein, pour le public. Ça apporte beaucoup de choses pour les médias, pas forcément pour le public. Je suis peut-être très critique sur ce point-là, mais ouais.
Vous nous avez quand même présenté une application pour filmer en direct. Qui dit filmer en direct dit aussi possibilité pour les gens d'interagir. Malgré tout, de rendre plus facile le direct et de le rendre interactif, est-ce que ce n'est pas là une étape que le public peut attendre?
Alors, en revanche, oui, pour la possibilité d'intervenir auprès des journalistes, c'est-à-dire de les alerter, de donner leur opinion, ça apporte effectivement quelque chose. Ça apporte aussi quelque chose si les citoyens s'emparent aussi de ces outils de tournage, parce qu'il y a eu une grosse déception à l'époque de la création des blogs. Je me souviens, sur Internet, il était possible de faire son journal en ligne très facilement. On s'est rendu compte qu'au final, très peu de blogueurs s'en emparaient. Il y a eu très peu de création de nouveaux médias, finalement, sur Internet. De la même manière, quand la vidéo mobile s'est démocratisée, notamment la possibilité de faire du live, il suffit d'aller faire un tour sur Facebook Live ou sur Periscope pour être affligé par le contenu de ce qui est posté. C'est des gens face à leur téléphone qui demandent aux gens de comment ça va, aucun contenu. Et donc, il y a une énorme déception du côté des médias de ce côté-là. On attend une implication des citoyens dans la création de contenu médiatique. Et j'espère que ça va venir.
Pour vous, quelle sera la prochaine grande étape en termes d'évolution, voire même de révolution quant aux moyens de production?
Alors pour moi, la prochaine grande étape, c'est celle de l'agilité totale, c'est sur les médias. C'est-à-dire qu'on reste aujourd'hui encore cloisonné entre médias de presse écrite, médias de radio, médias de télé, médias exclusivement web. Et la prochaine grande étape, ce sera cette agilité permanente qui permettra au besoin de faire un jour un journal et tout en étant la même organisation, au besoin de faire un débat en direct. C'est ce que fait parfois Mediapart d'ailleurs, mais de créer des médias qui soient vraiment transmédia et qui soit surtout indépendant de la technique. Je crois qu'aujourd'hui, le plus gros problème des médias, c'est leur dépendance à la technique. Je pense au contraire que le but, c'est vraiment de s'affranchir de la technique pour ne plus laisser la technique dicter le contenu éditorial. On va d'abord se poser la question de ce qu'on a à dire et ensuite du meilleur média le plus approprié pour le dire. Et c'est en cela que l'éditorial pourrait reprendre le pas sur la technique, s'affranchir de la technique en quelque sorte.
Denis Vanier, journaliste donc et expert aussi expert des technologies de l'information numérique dans l'ouest de la France, qui forme notamment des journalistes à France Télévisions. Donc Denis Vanier qu'on a rencontré à Paris hier lors des rencontres francophones de vidéo mobile. Vous pouvez retrouver cette interview en intégralité bien sûr sur nos sites internet, ainsi que les interviews de Nacha Gagnebin, collaborateur parlementaire du Jura bernois, ou encore celui de Jamel Chérif, porte-parole de l'association culturelle des musulmans de Neuchâtel, qui nous parlait de Annie Ramadan. Vous retrouvez tout ça, bien sûr, sur Internet, sur les sites rjbrtnrfj.ch. Je remercie Céline Favre, notre chroniqueuse humoriste, et je remercie aussi Aileen pour la réalisation de cette émission. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir.
Place publique.